Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce matin dans la matinale, nous n'allons pas parler de politique, quoique, je reçois ce matin Isabelle Doctrinal. Elle est porte-parole de la coordination Solidarité Migrants des Côtes d'Armor. Elle est venue jusqu'à nous dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs migrants et de leurs familles, qui aura lieu demain, le 18. Merci infiniment d'être venue jusqu'à nous. Bonjour.
Bonjour, ben merci de me recevoir, enfin de nous recevoir, puisque du coup je représente 16 associations sur le département et c'est en leur nom que je viens expliquer ce que l'on fait.
Voilà, justement, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour des migrants, des réfugiés. Je ne sais pas d'ailleurs le terme le plus approprié, vous allez nous le dire. Il y a une forme de peur aussi, on l'entend parfois dans l'expression politique, dans la matinale. Comment évacuer cette peur? Comment essayer de faire finalement mieux vivre les uns et les autres ensemble?
Alors nous, on pense que dans la société d'aujourd'hui, on instrumentalise l'immigration, on l'agite comme un chiffon rouge, on la rend responsable de tous les maux de la société. Et nous, sur le terrain, nos associations, elles rencontrent les personnes étrangères, elles font un accompagnement de proximité et elles prouvent par leur action, on pourra un peu décliner, elles prouvent par leur action au quotidien que quand il y a accueil, il y a intégration. Et on attendrait des politiques qu'ils prennent un peu cette voie ou qu'au moins ils acceptent d'en discuter.
Alors on est dans une société aujourd'hui fracturée à bien des titres et dans bien des aspects, fracturée socialement, mais fracturée aussi autour justement de la question de l'immigration. Qu'est-ce qui fait peur selon vous aujourd'hui? La peur de l'autre, la peur du migrant?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a des personnes qui sont foncièrement racistes et qui ont réussi à donner un discours dans la société, à utiliser le fait que les gens... La préoccupation des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'accès aux soins, c'est l'accès au travail. Et en fait, on leur fait croire que s'il n'y avait pas de personnes étrangères, tout serait réglé.
Voilà. Alors que finalement les chiffres démentent un petit peu cet état d'esprit général aujourd'hui. Il n'y a finalement pas autant de migrants qu'on peut l'imaginer en France.
Alors ce qui est important de dire, c'est qu'on a toujours été une terre de migration. D'abord, c'est le fruit de notre histoire, hein, puisque nous-mêmes, nous sommes construits via l'immigration. Aujourd'hui, il y a 7,7 millions de personnes étrangères. 2 millions ont la nationalité française. Donc, après, 500 millions sont en situation, travaillent, ont un titre. Et on parle, les personnes qui sont contre l'immigration, stigmatisent et parlent d'un million de personnes. Un million, dedans, il y a 700 000 personnes qui n'arrivent pas, et c'est très important, aujourd'hui, qui sont sans papier. Après, on peut expliquer pourquoi ils sont sans papier, mais une réalité aujourd'hui, ils sont là en France, certains depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ils n'arrivent pas à obtenir de papier parce que la France refuse et veut les renvoyer chez eux. Ça, c'est 700 000 personnes. Il y a 500 000 personnes autres, on en accompagne quelques-uns sur le territoire, qui ont un titre et qui se voient un titre très précaire. Pour un oui, pour un non, on va leur refuser, on reporte le délai. Donc en fait, ils ne peuvent pas vraiment s'installer, ils ne peuvent pas construire une vie de famille, trouver un loyer, etc.
Alors qu'aujourd'hui, l'immigration, on en parle aussi par un autre aspect, j'allais dire l'aspect économique. On sait qu'on a une population qui vieillit, on a un territoire, la France, mais aussi la Bretagne, hein, on peut le dire, qui vieillit et qui a besoin évidemment de cette main-d'œuvre qui arrive de l'étranger, qui n'est pas toujours d'ailleurs bien rémunéré, bien reconnu. Si demain, on a une loi sur l'immigration qui est très dure, qui est très restrictive, ça veut dire plus d'entrée sur le territoire, ça veut dire aussi peut-être des OQTF, le retour dans les pays respectifs des migrants, ça voudrait dire aujourd'hui qu'on aurait aussi une crise sociale derrière, une crise de l'emploi, une crise économique.
On aurait, oui, une crise économique et sociale. Aujourd'hui, les personnes étrangères qui travaillent produisent de la richesse pour la France. Elles cotisent. On parle de celles qui ne travaillent pas, mais la plupart travaillent. Donc, elles produisent de la richesse et elles permettront de payer nos retraites, etc. Si demain, on n'a plus ces personnes-là, on manquera de personnel dans les services, puisque ces personnes sont principalement employées soit dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, et dans les travaux publics, et dans les services à la personne aujourd'hui.
Ce sont là aussi des emplois, j'allais dire, que les Français, ou en tout cas que les Européens plus largement, n'ont plus envie de faire aujourd'hui. On préfère confier à la main-d'œuvre étrangère.
Je ne sais pas si le citoyen a cette réaction de... D'abord, je ne sais même pas s'il y a vraiment des études de fait pour dire si les citoyens français ne choisissent pas ces métiers. Mmh. Ils occupent des postes, ils ne prennent pas le travail des Français. Mmh. On a un taux de chômage qui n'est pas... Alors c'est pareil, on l'agite, mais il n'est pas si élevé que ça. Et on sait qu'il y a toujours une rotation entre travail, période de chômage, changement, mobilité. On a aujourd'hui des jeunes qui c'est comme ça qu'on les a éduqués, qu'on a formé notre société, être mobile dans la vie, pouvoir changer de travail. Donc non, ils n'occupent pas les travaux que les Français ne veulent pas faire.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Isabelle Doctrinal, de cette coordination qui regroupe donc 16 associations et des collectifs également ici dans les Côtes d'Armor. Comment ils agissent, ces collectifs? Comment elles agissent concrètement sur le terrain, ces associations?
Alors, ce sont des associations constituées de bénévoles et de donateurs. On n'a aucun fonds public pour accompagner les personnes étrangères. On a des associations de tailles différentes. Certaines sont de véritables associations, d'autres sont des petits collectifs. Elles agissent... certaines sont autour du droit, d'accompagnement juridique, l'accès au droit... et puis beaucoup sont dans l'accompagnement pour trouver un logement. Vous avez par exemple des associations qui trouvent des donateurs pour... chaque donateur met un peu d'argent chaque mois et ça permet de loger une famille étrangère qui, je le rappelle, n'a pas de titre, n'a pas le droit de travailler et en fait serait autrement à la rue.
Vous parliez de protection juridique. On a dans ces familles, dans ces personnes qui arrivent de l'étranger, des personnes qui pourraient se retrouver peu ou prou sous OQTF du fait qu'elles n'ont pas de titre de séjour. Ça fait partie aussi de l'accompagnement de ces associations.
Alors, les associations essayent au maximum de trouver d'aider les gens à avoir un titre de séjour. Comme le droit se réduit depuis 40 ans, en fait, il n'y a plus beaucoup de possibilités d'obtenir un titre. Donc, il y a de plus en plus de gens sans papier. Une autre chose, il y a des gens qui ont des papiers, et comme ils n'ont plus accès à la préfecture, il n'y a plus de service public pour les renseigner, il y a un dysfonctionnement de l'appareil mis en place de dématérialisation qui fait que des gens qui ont un travail aujourd'hui se retrouvent sans papier. Mmh.
Donc là, c'est plutôt ce que vous considérez comme un dysfonctionnement de l'État de ne pas accueillir ces populations pour les aiguiller, pour les aider.
C'est un dysfonctionnement, mais ce sont des choix politiques. Mmh. Quand on met en place une plateforme où il n'y a aucun service derrière, enfin, si vous avez un problème avec la plateforme, la CAF, la Sécurité sociale, vous allez pouvoir vous adresser quand même. C'est compliqué, on le sait, mais on finit quand même par avoir un interlocuteur. Pour une personne étrangère, même une personne étrangère qui a ses papiers aujourd'hui, qui veut les renouveler, elle n'a accès à aucun service, aucun conseil. C'est un mur.
Mmh. Les associations, en tout cas pour les Côtes d'Armor, ont été reçues, je crois que c'était en mars dernier, vous allez me corriger si je me trompe, par le préfet, par la préfecture. Est-ce que ça a permis quelques avancées? Est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce qu'il y a une volonté de part et d'autre de faire avancer les choses?
C'est un peu des discussions de salon. Voilà, on est reçu par la préfecture, donc on était satisfait, c'est une reconnaissance de notre existence. Toutes les associations étaient, presque toutes les associations étaient présentes. C'est de montrer qu'on établit à notre niveau un petit rapport de force, mais c'est un dialogue de sourds, hein. Ça ne change rien, ils font bien leur travail. Ce qui est très important de dire pour les citoyens, c'est de comprendre que chaque préfecture fait comme elle veut. Il y a des textes cadres, mais c'est le préfet qui décide d'octroyer ou pas, et selon ses critères. Donc c'est pas pareil si on est en Ille-et-Vilaine, si on est en Vendée ou si on est dans les Côtes d'Armor. Donc ça, c'est totalement injuste. En France, il n'y a pas ça pour la personne française.
Avec justement donc des disparités territoriales, on l'aura compris, dues finalement à la discrétion des préfectures et de leur interprétation des textes. Mais ici, on est dans une terre, j'allais dire, un peu différente en Bretagne, qui a toujours été une terre d'accueil, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique aux commandes de la région. Il y a toujours eu beaucoup d'associations, il y a toujours eu un sens de l'accueil. C'est plus facile ici en Bretagne pour les associations que dans d'autres régions par ailleurs.
Alors, il y a une culture d'accueil. D'abord, c'est la preuve avec nos associations, hein, puisque c'est des citoyens lambda qui s'organisent sur le terrain, des fois autour d'une école, etc. C'est une terre d'accueil. Et en même temps, on sait aussi qu'on a moins de personnes étrangères que les régions du sud ou du nord de la France. Et ça, c'est l'histoire de chaque territoire. Mais peut-être que, parce qu'on est accueillant, il faudrait faire une étude poussée, peut-être que parce qu'on est accueillant, on peut intégrer plus facilement les personnes.
On entend souvent, en cette période politique d'élections municipales à venir, peut-être présidentielles en 2027, peut-être même législatives avant, on ne sait pas. Il y a une forme, d'incertitude politique. On voit quand même se cristalliser le débat autour de la migration, autour de l'accueil des migrants et aussi autour de la sécurité. J'imagine que c'est quelque chose qui vous interpelle. Souvent, on pointe du doigt l'insécurité en disant c'est lié au fort taux d'immigration. J'imagine que vous inscrivez en faux lorsque l'on vous dit ça.
Oui, parce que évidemment, c'est tout de suite très médiatisé par certains médias, avec une stigmatisation. Il n'y a pas d'études qui montrent qu'une personne étrangère serait plus dangereuse ou plus délinquante qu'une personne française. Après, tous les étrangers ne sont pas honnêtes, comme tous les Français ne sont pas honnêtes. On en a la preuve tous les jours et à tous les niveaux. Alors par contre, en prison, il y a un taux d'occupation par des personnes étrangères plus importante parce que, de par leur situation, on en a parlé tout à l'heure, elles vont plus facilement être prises dans des réseaux peut-être de trafiquants ou aussi au niveau de la... Enfin, elles vont faire des vols, etc.
Elles vont essayer de survivre finalement.
De survivre, hein, puisqu'en fait, la plupart, et je veux revenir sur les OQTF, sont bannies de notre pays. L'OQTF, c'est très important de comprendre que ce n'est pas donné parce que la personne a fait un délit. L'OQTF, c'est simplement parce que la personne a réussi à déposer un titre, une demande de titre à la préfecture et que le préfet va lui refuser et lui donner une OQTF. Mmh. Aujourd'hui, les préfets ont la consigne, l'ordre, de donner de plus en plus d'OQTF.
Elle a aussi une volonté politique.
C'est une volonté politique. Ce qui change c'est dans la vie pour ces personnes-là, c'est qu'à tout moment, donc elles doivent se faire discrètes, à tout moment dans leur vie, elles peuvent être arrêtées, enfermées dans un centre de rétention. Il y en a à Rennes, par exemple. Et l'État va essayer de... Elles vont être enfermées parce que l'État a décidé de les renvoyer dans leur pays. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a que 6% des OQTF qui sont... Donc 6%. Donc on bannit toute une population et la France n'est en capacité de renvoyer que 6% de ces personnes qui ont une OQTF dans des conditions indignes. Mmh. L'ECRA, c'est pas une prison.
L'ECRA, c'est des centres de rétention
administratifs et vous êtes encadré par des gendarmes.
Mmh. Il y a aussi la barrière culturelle, la barrière de la langue. La peur, là aussi, vous le disiez fort justement, de se faire attraper et renvoyer dans son pays. Et puis, il y a des cas particuliers. On pense à ce jeune arbitre ici, dans les Côtes-d'Armor, qui a fait l'objet d'une OQTF. Il y a une grande mobilisation autour de lui, arbitre au club, enfin, en tout cas, au club de foot de Saint-Brieuc. Voilà, est-ce que c'est aussi le rôle des associations de médiatiser, d'essayer de faire bouger les lignes à ce niveau-là?
Alors, il faut médiatiser. Malheureusement, on n'est pas assez nombreux pour dénoncer. C'est tous les jours qu'il y a des gens qui se font embarquer, hein, qui ont une OQTF, qui se font embarquer. Et quand on parle du coût pour notre société, pour refuser, exclure ces personnes, pour les rendre invisibles, pour les enfermer dans des centres de rétention, pour les renvoyer dans leur pays, tous ces coûts-là, on pourrait les mettre pour l'accueil.
Mmh. Alors justement, il y a des questions qui se posent autour de l'accueil. On voit beaucoup, on va prendre le cas de Saint-Brieuc, sans stigmatiser, mais il y a beaucoup de jeunes, souvent qui arrivent d'autres pays, qui sont souvent des mineurs non accompagnés, hein, ces fameux mineurs non accompagnés dont on parle souvent. On les voit souvent un peu démunis dans les rues, un petit peu errants. Est-ce que là aussi, il faudrait donner des moyens aux associations pour qu'elles puissent les prendre en charge, pour qu'elles puissent les faire entrer dans des dispositifs de formation, voilà, les rattacher à la culture, enfin voilà, tout ce qui fait finalement le lien humain?
Alors déjà, les mineurs non accompagnés, normalement, sont pris en charge par les conseils départementaux. Les conseils départementaux. Il se passe que beaucoup est souvent contesté la minorité.
Mmh.
Donc, ces jeunes se retrouvent à la rue sans aucune prise en charge. Alors, il y a des associations, et notamment sur les Côtes d'Armor, il y a Cajma, hein, qui accueillent qui essaient d'accueillir le maximum de jeunes qui sont dans cette situation sur le territoire, qui fait un énorme travail d'accompagnement, d'intégration, de parcours d'accompagnement jusqu'à avoir un diplôme et l'autonomie du jeune. Hein. Sauf que c'est pas suffisant. D'abord, est-ce que c'est le rôle d'une association de faire ce travail?
C'était un peu la question que je vous posais entre
pas,
eux.
Voilà, est-ce que c'est pas à l'État, à nous citoyens, avec d'accueillir ces jeunes qui sont plutôt que de les laisser à la rue, comme vous dites. Donc on est un peu épargné dans notre département parce qu'on a une association qui fait le boulot, boulot, c'est pas du tout péjoratif, hein, qui fait le travail de ce que devrait faire l'État. La protection des citoyens, ces jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés.
J'ai envie d'aborder le volet politique. On voit aujourd'hui beaucoup de partis politiques voilà, qui réfléchissent autour de l'immigration, quelle que soit la sensibilité, alors avec chacun sa façon d'aborder le sujet, mais on voit aussi une tension dans la société en disant voilà, il y a quand même un doigt pointé sur les migrants, en disant oui, c'est de leur faute, il n'y a pas assez de travail, qu'ils prennent tout notre argent, etc. etc. Et puis on entend aussi des formations politiques qui ont envie de durcir, hein, vous y faisiez peu ou prou allusion tout à l'heure. Est-ce que vous êtes inquiète, vous, à titre personnel, mais plus largement, les associations, les collectifs, est-ce que vous êtes inquiet de la tournure politique des événements, par exemple pour 2027, où l'on dit que le Rassemblement national pourrait arriver au pouvoir?
Alors, on est très inquiet, bien sûr, du climat politique, toutes les associations, à la fois sur la question des personnes migrantes, mais aussi sur les libertés associatives.
Mmh.
On constate, nous, au niveau de plusieurs associations, des remises en cause pas dans les Côtes d'Armor, hein, mais des remises en cause de subventions pour des associations qui aujourd'hui font un travail d'accompagnement, par exemple.
Il y a effectivement aussi cette question de budget, hein, j'allais y venir, mais vous m'avez un peu devancé, c'est très bien. Cette question de budget, aujourd'hui, on demande des économies à tout niveau dans la société, que ce soit autour des entreprises, autour là aussi des associations. Est-ce qu'il y a un danger, justement, vous avez presque répondu, mais d'un péril associatif, si j'ose employer le terme?
Je pense que si le Rassemblement national, d'abord, s'est annoncé, hein, il y aura une remise en cause du mouvement associatif. On commence à sentir quelques effets ici ou là. Certaines radios, je crois d'ailleurs, dans le Finistère. On voit bien un peu comment ça se dessine. Et les associations, surtout au niveau national, ont des grosses inquiétudes légitimes.
J'avais envie aussi de vous poser la question, Isabelle Doctrinal. Comment arriver à mieux faire avec moins? Est-ce que c'est vraiment de l'engagement? Là, je suis peut-être un peu plus sur le volet humain, mais est-ce que c'est de l'engagement? Est-ce que c'est un choix, peut-être politique aussi, mais un choix personnel, l'envie de tendre la main à son prochain, tout simplement? Cet engagement au sein des associations, des bénévoles, c'est un engagement humain, c'est un engagement politique, ou c'est un peu tout à la fois, l'envie vraiment d'aller tendre la main à l'autre, à l'étranger, justement.
Je pense qu'au départ, c'est un engagement humain. Enfin, je ne peux pas répondre pour chaque personne. Je pense que c'est un engagement humain. Après, évidemment, il peut devenir politique aussi, parce qu'on rencontre une injustice flagrante. Ce qui est important, peut-être, si déjà chaque personne essayait de rencontrer les personnes étrangères, ça changerait le regard. C'est un peu comme ça que ça commence. Vous voyez, il y a souvent des mobilisations autour d'un enfant qui... La famille va avoir une OQTF, donc ils vont devoir partir. La mobilisation fait que tout d'un coup, tout le monde au sein de l'école s'intéresse beaucoup plus à la question, rencontre la famille et les liens se créent comme ça.
C'est aussi le rôle des associations, des collectifs, justement, d'aller sur le terrain, d'expliquer le travail sur le terrain chaque jour, hein, puisque c'est du travail quotidien, on l'aura compris, et d'essayer un petit peu de faire tomber les barrières, cette peur de l'étranger, là encore.
Tout à fait. Donc nos associations, elles font de l'accompagnement, comme on a dit jusque-là, des personnes, mais elles font aussi un gros travail d'information. Chacune réalise des événements sur son territoire, hein, dans le cadre, tout au long de l'année d'ailleurs, hein, que ce soit à Lannion, Paimpol, Dinan, la semaine dernière, dimanche dernier, il y avait une pièce de théâtre. Toutes essayent de rendre visible et de discuter avec les gens. Il y a des distributions, bien sûr, sur le marché, il y a des ciné-débats, il y a Festisol, hein, beaucoup sur Saint-Brieuc. Et donc on a décidé aussi de notre coordination un peu, c'est pour montrer qu'en fait ce qui se passe à Lannion, à Paimpol, à Saint-Brieuc, ça existe, montrer à tout le monde que ça existe. D'où l'idée de faire des actions, pas beaucoup, mais des actions communes. Donc on avait fait un rassemblement le 22 mars, là, qui est départemental, assez réussi, ma foi, au niveau de la participation, avec de beaux échanges avec la population. On a rencontré la préfecture, on avait fait une demande à la préfecture. Et là, pour le 18 décembre, on organise 3 rassemblements, le 18 à 18h, à Lannion, Paimpol et Saint-Brieuc.
Voilà, donc demain... Pardon, voilà, je vais y arriver. Donc demain, le 18, Saint-Brieuc, Paimpol, Lannion, Dinan.
Lannion, Paimpol et Saint-Brieuc.
Voilà, je vais les remettre dans l'ordre. C'est important là aussi, ce qui corrobore finalement cette journée consacrée aux migrants, c'est important aussi d'avoir des rassemblements peut-être avec d'autres parties de la population, alors monsieur, madame, tout le monde, mais aussi on a vu les formations syndicales aussi qui sont très attentives.
Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on tient à garder notre... pour rendre visible la question de l'immigration, mais on travaille, bien sûr, c'est transverse à la société. À l'appel, il y aura... les syndicats ont appelé le 18, pardon, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, tout le monde peut appeler d'autres, la marche des solidarités, d'ailleurs, d'autres associations appellent aussi le 18. Mais nous, on a envie de... d'ailleurs, on sera disponible dans chaque lieu pour échanger avec les personnes sur la question des migrations. Ce sera des animations festives, comme on sait le faire dans notre département.
Avec aussi les jeunes, la jeune génération. Là, on entend beaucoup de jeunes qui s'engagent en politique ici sur l'antenne de Bretagne 5. Et on s'aperçoit aussi que la jeune génération défend beaucoup de causes. La cause de l'immigration, c'en est une. Il y a un espoir de ce côté-là de faire tomber peut-être plus de barrières.
Alors là, je ne sais pas. C'est
une... Je vous pose la question. Une question. Est-ce que les jeunes s'engagent plus finalement dans cette voie-là pour essayer de faire tomber des barrières?
Alors, ils s'intéressent beaucoup au sujet et si, je pense. Que... Mais après, dans le travail de nos associations, c'est un peu compliqué parce que ça demande beaucoup de la disponibilité. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes, il y a des jeunes. Mais c'est plutôt des personnes qui vont avoir un peu de disponibilité en termes de temps. Mais dans toutes les associations plus nationales, il y a beaucoup, énormément de jeunes qui portent la question et la défense des personnes migrantes.
Ça nous ramène un peu à la politique et à cette fameuse loi qui n'en finit pas de ressortir sur la retraite. Est-ce que demain, si on allonge l'âge de la retraite, on sait que dans les associations, il y a beaucoup de bénévoles qui, lorsqu'ils sonnent l'heure de la retraite, vont se mettre à disposition. Est-ce que ça peut aussi créer une crise du bénévolat si on allonge justement l'âge de départ à la retraite?
Alors, probablement, mais pas que pour nos associations. Après, nous n'avons pas que des retraités. C'est extrêmement... Nous avons aussi une partie de la population dans les bénévoles qui sont encore en activité. Et c'est extrêmement important parce que ça dynamise à la fois nos associations. Et puis, ça ramène à la question, ce sont des gens qui travaillent, qui discutent avec leurs collègues et qui irriguent de leurs connaissances. Donc, on a beaucoup de gens aussi qui travaillent. Hein.
Quels sont les grands dossiers que vous traitez aujourd'hui, par exemple, au niveau des Côtes d'Armor? Est-ce qu'il y a des urgences? On pense à des OQTF, on pense à des mobilisations à venir autour de cas particuliers. Voilà, je vous pose la question également.
Ce qui ressort des permanences d'accueil, c'est toutes les OQTF qui tombent. Le désarroi des gens qui accompagnent les personnes étrangères parce qu'il n'y a plus de solution. Chacun essaie de faire au mieux, de trouver une piste, et en même temps, il n'y a pas. On voit qu'il n'y a pas de solution. Et je ne sais pas jusqu'à quand on peut tenir. Quoi. Voilà.
Vous parliez de votre rapport à l'État avec la préfecture, évidemment, qui est, j'allais dire, la partie accessible de l'État dans les régions, dans les départements. Est-ce qu'au niveau national, les associations pèsent aussi sur le monde politique? Est-ce qu'il y a des contacts avec les parlementaires, avec les sénateurs? Est-ce que là aussi, il y a une volonté de faire bouger les lignes, même au niveau législatif?
Alors, beaucoup d'associations font du plaidoyer. La CIMAD en fait énormément, c'est un de ses axes. Donc, au niveau national, auprès des politiques, il n'y a pas d'écoute de l'État. Il y a eu dernièrement peut-être une rencontre, mais il n'y a pas d'échange sur le fond. Voilà. Mais on fait énormément de plaidoyer et beaucoup de plaidoyer avec le GISTIF, c'est beaucoup en plusieurs associations qui travaillent ensemble. Il y a énormément de communiqués hein, de presse régulièrement.
Un dernier mot, on le rappelle, demain 18 décembre à 18h, des manifestations donc à Lannion, Paimpol et Saint-Brieuc, cette fois-ci j'ai bien noté sur ma petite fiche, mais il y aura aussi des prolongations avec une conférence autour du travail et de la migration. Alors on prend un peu d'avance, hein, on en reparlera à nos auditeurs, c'est le 12 février, c'est ici au Totem à Saint-Brieuc, c'est important aussi de rencontrer les gens autour de cette notion de travail et de migration.
Tout à fait. Donc on est en préparation de cette conférence parce que nous, on pense que si on débat le plus... Alors, bien sûr, il y a les films, mais il y a aussi... là, on aura un apport d'un historien, d'une économiste pour essayer de, avoir cette vision partagée. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais ce serait bien qu'on puisse échanger sur des bases communes et une analyse la plus commune possible de la situation et non pas chacun campant sur sa vision du monde.
Voilà, il faut élargir cette vision du monde, justement. Ouais. Merci infiniment, Isabelle Doctrinal, d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la coordination Solidarité Migrants 22 ou Côte d'Armor. Ça c'est pour nos auditeurs lointains. Merci infiniment et très belle journée.
Merci, bonne journée à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.